débutons les matins avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans ce journal, nous reviendrons bien sûr sur cette attaque hier au marché de Noël de Strasbourg. Elle a causé la mort d'au moins 3 personnes, en a blessé 12 autres dans 3 points de la ville. Le suspect est toujours en fuite à l'heure qu'il est. Il était connu de la police, fiché S et poursuivi pour des faits de droit commun. Nous y reviendrons largement avec les précisions de Florence Turme.
Et nous reviendrons sur le mouvement des Gilets jaunes également. Comment le gouvernement va-t-il financer les annonces faites pour calmer leur colère lundi soir? Les députés sont inquiets, nous les entendrons dans ce journal.
Nous irons en Argentine, où deux anciens dirigeants du groupe américain Ford ont été reconnus coupables hier de crimes contre l'humanité, et puis en Chine, où un lac pollué est redevenu un havre pour les oiseaux migrateurs. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, la question du jour, on reviendra sur l'attaque qui a ensanglanté le marché de Noël à Strasbourg, et nous serons en ligne avec l'islamologue Gilles Kepel. Ça sera dans une dizaine de minutes.
Les autorités le redoutaient, c'est arrivé. Hier soir, ce sont les visiteurs du marché de Noël de Strasbourg qui ont été pris pour cible par un tireur qui a fait 3 morts au moins avant de prendre la fuite. 600 personnes sont à ses trousses en ce moment, épaulées par 2 hélicoptères. L'attaque a blessé 12 personnes au total, dont 6 sont en état d'urgence absolue. Elle s'est déroulée dans 3 secteurs de la ville. Écoutez Valentin, témoin de la fusillade. Il se trouvait dans le centre de Strasbourg hier dans la soirée.
C'était vers 20h. J'étais dans le magasin de mon ami et on a entendu des coups de feu. Et on a par la suite vu plein de gens courir dans le sens opposé. Du coup, on a attendu un petit peu avant de sortir. Et puis après, on est allé voir dans la rue juste à côté. Et il y avait 2-3 personnes au sol qui ne bougeaient plus. Du coup, nous sommes retournés au magasin pour fermer en vue de partir. Et sur le chemin du retour, on est tombé sur des militaires qui nous ont dit que c'était donc un attentat. Et que les personnes à terre étaient soit décédées, soit dans un état critique. Et que les secours étaient en route. Et qu'il fallait qu'on quitte le centre-ville. Je suppose que ça devait être au moins un homme au niveau de ses chaussures. Mais après, il y en a un qui était sur le ventre face au sol. On l'avait recouvert de couverture et d'une bâche pour le tenir au chaud, je suppose. Par contre, il bougeait plus et celui du fond bougeait encore un petit peu.
Valentin Strasbourgeois, donc bonjour Florence Turme.
Bonjour.
Alors revenons avec vous sur ce qu'on sait du déroulé des événements d'hier soir et sur le profil du suspect.
Alors d'abord que l'individu a ouvert le feu dans une voie piétonne très fréquentée, toute proche des installations du marché de Noël. Des tirs qui vont déclencher des mouvements de panique dans la foule. Autour de la place Kléber, la police ordonne aux passants de se réfugier dans les commerces et les restaurants du centre-ville. Les militaires de la force sentinelle présents sur le marché de Noël vont faire usage de leurs armes pour tenter de l'intercepter. Mais l'homme réussit à prendre la fuite, d'abord à pied, puis en s'engouffrant dans un taxi. Et selon le chauffeur, le suspect serait blessé. À 2 reprises, il va se trouver confronté aux forces de sécurité avec systématiquement des échanges de tirs, indique le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Dans sa course meurtrière, l'homme, vous l'avez dit, a tué 3 personnes, blessé 12 autres, dont 6 grièvement. Il a été identifié d'un individu de 29 ans avec un lourd passé de délinquant, plusieurs fois condamné pour des faits de droit commun en France et en Allemagne, mais aussi considéré comme proche de la mouvance islamiste. Lors de l'un de ses passages en prison, il s'était fait remarquer pour des violences et son prosélytisme religieux. Il fait l'objet d'une fiche S, Sûreté de l'État, depuis 2016. Et il était déjà recherché avant l'attaque d'hier soir, apparemment pour un vol à main armée. Le matin même, d'ailleurs, les gendarmes avaient perquisitionné son domicile, mais sans retrouver sa trace. Alors comment et pourquoi le suspect a-t-il basculé dans ce périple meurtrier? Ses motivations précises restent encore à établir, mais le parquet de Paris a estimé les indices suffisants pour ouvrir une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et la traque se poursuit avec plusieurs centaines de policiers, gendarmes et militaires mobilisés, appuyés par 2 hélicoptères pour tenter de retrouver le fuyard.
Merci beaucoup Florence Turme. Le ministre de l'Intérieur, vous l'avez cité, Christophe Castaner, a été dépêché à Strasbourg hier soir. Il a annoncé le passage en urgence attentat qui signe notamment la mise en place de contrôles renforcés aux frontières. Les lieux publics de Strasbourg confinés hier soir ont été rouverts au public. Le maire a confirmé que les écoles primaires seraient ouvertes ce matin, même si les cours ne seront pas assurés. Les lycées, en revanche, accueilleront les élèves. Et puis les manifestations prévues aujourd'hui sont annulées pour permettre aux forces de l'ordre d'être pleinement mobilisées dans la recherche du suspect. Nous reviendrons sur cette attaque dans les prochaines éditions. C'est une mesure de plus pour tenter d'apaiser des gilets jaunes toujours en colère. les banques ont promis hier à l'Élysée qu'elles n'augmenteraient pas les frais bancaires l'année prochaine. Convoqués par le président, les patrons des grandes banques françaises ont accepté également de plafonner les frais d'incident bancaire à 25 euros par mois pour 3,5 millions de personnes les plus fragiles. Un effort supplémentaire donc, alors que la colère des Gilets jaunes ne semblait pas vraiment refluer hier malgré un soutien un peu moins massif de l'opinion. À en juger par plusieurs sondages, les Gilets jaunes continuent ça et là leurs opérations de blocage. Le gouvernement, lui, a mené hier le service après-vente des annonces de lundi soir auprès notamment de députés inquiets. Le reportage d'Anne Fauquemberg.
Des questions auxquelles il faudra répondre rapidement car le budget pour l'année prochaine est en cours d'adoption. Le député Les Républicains, Claude Goasguen, est d'ailleurs très prudent avec les annonces du chef de l'État.
Je crains que Bercy ne nous fasse des mauvaises surprises sur les annonces. Parce que le SMIC, c'est pas facile en réalité. C'est une annonce qui est intéressante, hein, c'est incontestable, mais il va falloir qui est-ce qui paye.
Le député communiste Pierre Dharréville propose quant à lui de développer de nouvelles ressources.
L'argent existe, il existe dans l'évasion fiscale, il existe dans le doublement du CICE, c'est 22 milliards d'euros, c'est considérable. Hein.
Alors que le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan invite à oser de nouvelles économies.
Par exemple l'Union européenne où on donne 9 milliards d'euros à une organisation qui nourrit la concurrence déloyale. Par exemple, en allant taxer les GAFA.
La taxe sur les grandes entreprises du numérique, justement, même si l'Union européenne n'arrive pas à se mettre d'accord, la France le fera, affirme Mathieu Orphelin, issu des rangs de la majorité présidentielle.
C'est mieux au niveau européen, comme beaucoup de choses, mais si jamais l'Europe ne prend pas ses responsabilités, on le fera au niveau français. Ce raisonnement, il peut s'appliquer à d'autres choses. La taxe sur les transactions financières, bien sûr que la bonne échelle pour la faire, c'est l'Europe. Ça pourrait permettre de rapporter 20 milliards d'euros à l'économie réelle. Mais si jamais on n'y arrive pas au niveau européen, la France peut décider.
Des questions qui ressortiront nécessairement lors du débat organisé a priori demain sur la motion de censure. Tout l'intérêt pour Édouard Philippe sera d'y répondre avec pédagogie.
Anne Fauquemberg.
7h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Elle va retourner dans l'arène. Theresa May doit à nouveau affronter les députés britanniques aujourd'hui, dont une partie est extrêmement remontée contre le report du vote sur le Brexit décidé hier par la Première ministre.
Le leader de l'opposition travailliste, par exemple Jeremy Corbyn, exige qu'elle remette l'accord immédiatement en débat. Pour lui comme pour d'autres, la tournée de Theresa May dans plusieurs capitales européennes, hier notamment pour essayer d'obtenir des concessions, n'a servi à rien. La question qui fâche notamment est celle du backstop, une clause destinée à empêcher le retour d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, frontière supprimée en 1998. Theresa May se rendra à Dublin cet après-midi. L'Argentine continue de panser les plaies de la dictature par le biais de la justice, notamment. Deux anciens dirigeants de l'usine du constructeur américain Ford étaient en procès ces derniers jours. Deux hommes condamnés hier à 10 et 12 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Ils avaient séquestré et torturé des ouvriers au sein même de l'usine Ford en 1976. Même s'ils sont assignés à résidence à cause de leur âge avancé, c'est une victoire pour les survivants et les familles des victimes après 42 ans de bataille juridique. À Buenos Aires, Caroline Vic.
Dans la salle du tribunal, assis, la tête baissée, Pedro Muller, 85 ans, et Hector Sibila, 90 ans, reçoivent leur peine de prison. 10 ans pour le premier, à l'époque chef de l'usine, et 12 ans pour le second, alors responsable de la sécurité chez Ford. Tous deux, à l'aide de militaires, arrêtaient des ouvriers à leur arrivée à l'usine, les torturaient dans une petite cabane non loin de là, avant de les emmener dans des centres de détention. Les réactions de Pedro Troiani, ex-ouvrier et ex-délégué syndical, survivant de la dernière dictature après la lecture du verdict.
Que ce verdict apparaisse dans les livres d'histoire, c'est un triomphe absolu. Que ceux qui nous suivent, que les jeunes le sachent, quand on lutte, quand on s'unit, tout est possible. Et pour nos camarades qui ne sont plus là aujourd'hui, je vous demande des applaudissements.
Ford était bien connu pour sa sympathie envers le gouvernement militaire argentin. L'entreprise lui fournissait d'ailleurs ses fameux Falcon, la terreur des Argentins pendant la dictature. 10 et 12 ans de prison, donc une condamnation historique, car pour la première fois, des membres de la direction d'une entreprise sont condamnés en Argentine à de la prison pour crimes contre l'humanité durant cette dictature qui aura laissé 30 000 disparus.
Caroline Wick. À Katowice, en Pologne, les débats de la COP24 continuent malgré une couverture médiatique assez faible et l'absence de nombreux dirigeants, notamment le président français. La Chine, elle, l'un des deux plus gros pollueurs de la planète, a annoncé des objectifs extrêmement ambitieux en matière de transition écologique. Ses émissions de CO2 ont pourtant augmenté récemment, mais le pays recense aussi quelques victoires écologiques. Dans le Liaoning, par exemple, une province du nord-est de la Chine, le lac Wolong et ses centaines de milliers d'oiseaux migrateurs viennent d'être sauvés grâce à l'intervention d'une PME française, Biotop. Reportage de notre correspondante en Chine, Dominique André.
En 2009, pour stopper la progression du désert dont les premières dunes sont à 80 km au nord, le maire de Kangping se dit qu'il faut stocker de l'eau. Il décide alors de transformer le lac Wolong en réservoir sans en mesurer les effets et contre l'avis des écologistes locaux. Parmi eux, le professeur Durai Xiang, dont la mise en garde n'est pas écoutée.
Le gouvernement local pensait qu'il fallait remplir le lac d'eau au maximum. À partir de l'été 2012, ils ont commencé à stocker l'eau de pluie pour faire monter le niveau du lac. Les zones marécageuses autour du lac ont commencé à être inondées.
Le chef pense aussi qu'il faut jeter les eaux usées de la ville, ce qui fait encore monter le niveau du lac. 98% des oiseaux migrateurs disparaissent. Or, le lac Wolong est une halte internationale pour 50 millions d'oiseaux migrateurs, comme les grues de Sibérie, menacées d'extinction. Le plan de sauvetage est piloté par Xavier Ruffray, le directeur de Biotop en Chine.
L'aménagement a consisté donc à séparer le lac en deux avec une digue existante qu'on a renforcée, qui permet donc d'avoir au nord ce qu'on peut appeler un réservoir, et au sud on a le cœur de la réserve avec une zone humide préservée, restaurée avec toute sa végétation originelle pour justement que les oiseaux puissent se poser et puissent s'alimenter simplement.
Une fois l'aménagement réalisé, les résultats sont très vite spectaculaires, constate Monsieur Gao, un ornithologue local.
Le lac Wolong est devenu un vrai paradis pour les oiseaux. Ils peuvent reprendre des forces avant de poursuivre leur migration vers le sud.
Le lac Wolong est une réserve naturelle, certes sauvée, mais toujours fragile.
Dominique André, le temps de ce mercredi plutôt gris sur l'ensemble du pays,
L'ensemble du pays.
Oui, voilà.
Plutôt
pluvieux sur la côte ouest.
Il fait
quelques
froid,
flocons
plus.
De neige sur l'Auvergne, le Limousin, le Poitou. Sur l'est, la journée sera plus calme, mais grise aussi. Quelques éclaircies sur l'extrême sud-est. Les températures comptaient ce matin entre 2 et 10 degrés de façon générale, de moins 3 à 1 degré sur l'est, et puis de 1 à 14 degrés cet après-midi du nord-est au sud-ouest.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. Il est 7h12 sur France Culture.